auditeurs, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Et Monseigneur Calvé, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes archevêque du diocèse de Nouméa, mais vous avez été aussi en lien avec les autres diocèses du Pacifique. La tradition dans l'Église, c'est de vénérer les saints. C'est ce qui fait un petit peu la différence avec d'autres confessions. Et dans le Pacifique, nous avons des saints. Je veux penser d'abord à Saint-Pierre Chanel, et puis à Damien de Molokai, à Marie MacCulloch, etc. La Calédonie se cherche un peu des figures emblématiques, non ?
D'abord, en Calédonie, on a commencé à avoir comme patronage du vicariat apostolique, on a eu Saint-Austremoine. Saint-Austremoine, fort peu connu, peut-être hormis en Auvergne, quelqu'un d'une époque très ancienne, mais en même temps, quelqu'un dont la simplicité et dont le rôle de fondateur d'église est resté dans la tradition de l'église. Donc, on a toujours, dans les diocèses du Pacifique, attaché beaucoup d'importance à ceux qui étaient de la période de fondation, on peut dire la première génération. Saint-Pierre Chanel, pour notre région, c'est incontestablement celui qui est le patron de l'Océanie, c'est celui qui est le patron du diocèse de Wallis et Futuna, et dont la vie a été un martyr, donc c'est une vie exemplaire. Mais il y en a d'autres dans le Pacifique. Je pense aussi le diocèse de Guam dans le Pacifique Nord. Eh bien, ils ont toujours la figure du bienheureux San Victores, qui donc est une figure qui est étonnante et qui a marqué et qui continue à inspirer. Comme vous l'avez dit, le père Damien de Molokai pour les Hawaï, à l'époque c'était les îles Sandwich, et qui s'est occupé des lépreux jusqu'au bout. Donc voilà, des gens, Marie MacCulloch en Australie, Suzanne Aubert en Nouvelle-Zélande, qui faisait partie de la même génération que les fondatrices, les pionnières des sœurs SMSM, c'est-à-dire celles qui ont fondé la vie religieuse féminine à Wallis et Futuna, en Calédonie, au Vanuatu et dans tous ces pays. Et pour le moment, Marie MacCulloch a été canonisée, mais on souhaite bien dans la région qu'un jour Suzanne Aubert le soit aussi. Elle a joué un rôle considérable dans des domaines très très variés qui sont la linguistique. Elle a fait le premier dictionnaire de la langue maori. Elle a fait aussi des travaux sur les plantes et la médecine traditionnelle des Maoris. Elle-même était intéressée à ça depuis qu'elle était arrivée, donc une paroissienne du centre de Lyon, et qui s'est retrouvée dans des pays où elle a eu à prendre des grandes responsabilités et où il y avait des tensions politiques redoutables à l'époque, puisqu'il y a eu les fameuses histoires du traité de Waitangi qui a marqué l'histoire de la Nouvelle-Zélande. Donc ça, c'était des gens de l'extérieur. Mais il y a eu également des gens de l'intérieur. Et moi, j'aime bien quand on regarde les premières générations de ceux qui ont été convertis. Et parmi ceux-là, il y a une figure exceptionnelle, c'est Hippolyte Bonnou, de famille donc de responsabilité coutumière dans la région de Puebo, et qui a pris sur lui de se mettre en route et de faire partie du premier groupe qui, au moment où il était plutôt question d'abandonner la côte est à cause des difficultés qu'il y avait eu à Balade, peu de temps après, s'est mis en route pour Futuna. Et donc, ils étaient plusieurs dizaines de gens de Puebo-Balade qui se sont mis en route pour Futuna, pour être formés chrétiennement. L'histoire dit qu'ils sont arrivés un dimanche, le bateau est arrivé un dimanche, et l'île de Futuna paraissait complètement vide, personne, pas un bruit, si ce n'est du côté des églises. Et dans les églises, tous les gens qui étaient déjà donc convertis étaient en train de célébrer le dimanche. C'est ce qu'on dit. Toujours est-il que la formation de Hippolyte s'est déroulée en particulier à Futuna, et il a figuré dans une des premières pages du registre des baptêmes de Futuna, avant de retourner en Nouvelle-Calédonie, où son histoire s'est déroulée de manière que l'on sait, c'est-à-dire s'est heurté au gouverneur Guilin, qui l'a exilé de sa région de Puebo, qui l'a envoyé à l'île des Pins, où finalement Hippolyte est mort. On ne sait pas si c'est la dengue ou la grippe ou quelque chose de ce genre, mais toujours il est mort en exil. Et en exil pour la foi qu'il avait professée, puisque le gouverneur Guilin, ne pouvant pas s'attaquer directement au père, avait décidé de s'attaquer à tous ceux qui travaillaient avec eux. Et donc c'était le cas pour Hippolyte. On a d'autres personnages qui sont remarquables. Dans le début de l'histoire de la mission, on a des gens comme Hortense, son mari, tous ces premiers chrétiens, qui ont été dans des conditions difficiles, des conditions politiques compliquées, ont été des gens remarquablement clairvoyants. Et avec ceux qui étaient à leur service dans la mission, eh bien, qui ont fait faire des pas énormes à l'éducation. L'éducation des enfants et à la progression sociale des femmes en particulier. Ça a été le moteur du changement de la société le plus important. Quelquefois, on ne s'en rend pas compte, mais ça, c'est le vrai changement de la société quand, dans le Pacifique, eh bien, les femmes ont participé au changement de la société comme vraiment actrices. On a d'autres personnes qui, dans une période beaucoup plus récente, ont été assez remarquables. Je pense à quelqu'un que plusieurs d'entre nous ont connu, comme Éloi Dioé, qui a été catéchiste. Eh bien, c'était le témoignage du vieux père Michel Cohu, Monseigneur Michel Cohu, qu'il le connaissait, donc ils étaient tous les deux de Nakheti, qui me disait combien il était frappé par la spiritualité de Éloi Dioé. Quelqu'un qui a été président des catéchistes pendant des années et qui était capable de se mettre en route à chaque fois qu'il y avait une difficulté dans un endroit. Ce n'est pas quelqu'un qui fuyait les difficultés, mais c'est quelqu'un qui se disait « Bon, je vais voir ce que je peux faire au nom de l'Évangile devant telle et telle difficulté qui se présentait. » Et de manière simple, de manière humble, eh bien, il est arrivé à faire des choses qu'on peut dire un peu merveilleuses.
Ces personnages dont vous nous avez parlé, et j'avais pensé aussi au frère César de Lifou, on espère qu'ils seront déclarés bienheureux, voire saints. Est-ce qu'on peut voir
alors
aboutir ces projets?
C'est sûrement quelque chose qui peut être envisagé. Ça demande d'être extrêmement précis dans ce que l'on fait, dans les propositions qui sont faites. Dernièrement encore, la Congrégation pour la cause des saints a envoyé une lettre à tous les évêques dans le monde entier pour demander que l'on étudie soigneusement, du point de vue historique, les causes qui pouvaient être présentées pour la suite. Parce que, quelquefois, il y a des causes qui sont présentées un peu précipitamment. Et dans l'idée de bien faire, il est arrivé même que l'on attribue des événements qui sont rapportés, mais qui ont trait à plusieurs personnes différentes. Et qu'on regroupe, c'est arrivé fréquemment au Moyen-Âge. Quelquefois, dans le livre de l'histoire des saints, on a des histoires qui touchent plusieurs personnes. Alors, on nous demande maintenant, nous sommes à une époque où on se targue d'exactitude historique, de ne pas refaire les mêmes erreurs. Et donc, la première étape, et c'est ce que nous avons dans le diocèse, commencé en fait pour deux personnages. Il y a deux personnages, c'est Hippolyte Bonnoux dont on a parlé, c'est le frère César Lifou, qui sont des personnages qui ont marqué leur époque et dont l'exemple continue à être une inspiration aujourd'hui. Ils sont connus, pas encore dans tout le diocèse, donc il y a encore du chemin à faire. Mais déjà, j'ai commencé des dossiers, la documentation historique concernant ces personnages. Donc ce sera moi, ce sera quelqu'un après moi qui pourra reprendre cette cause, mais avec une documentation qui aura été la meilleure possible et en même temps des gens dont l'exemple est significatif pour une portion notable, pas seulement une paroisse ou une partie d'une paroisse, mais ce qui est recommandé par Rome, c'est que ce soit quelqu'un qui puisse inspirer un diocèse entier et si possible plusieurs diocèses. Donc on a encore un peu de chemin à faire, mais sûrement c'est des choses qu'il ne faut pas écarter.
Merci beaucoup, Monseigneur, et merci à vous, chers amis, d'être fidèles à notre rendez-vous, et nous vous souhaitons une très bonne journée.